Bonjour Marion Lourd.
Bonjour à tous.
C'est l'heure du journal.
À la une ce matin, le regain d'énergie des manifestants anti-pass, galvanisé par les propos du président sur les non-vaccinés. Plus de 105 000 personnes pour dénoncer la violence des mots dans la rue, nous les entendrons. Alors que face à l'épidémie, beaucoup d'enfants se terrent à la maison. Gros plan dans ce journal sur une génération. Novak Djokovic en défense, récemment covidé. Le joueur de tennis n'avait pas besoin de vaccin pour rentrer en Australie, assurent ses avocats. La Serbie aussi, son pays prend son parti. Nous serons à Belgrade. Dans ce journal encore, les États-Unis et la Russie entament des discussions pour éviter un conflit en Ukraine. Et puis il est possible de marier sport et gourmandise. Mais oui, à la fin de cette édition, une part de galette avec des fèves en forme de maillot de foot, pelote ou vélo. Et une part de journal des sports. Au menu, grosse portion de foot et un soupçon de rugby.
Et à 8h20, une grosse portion d'économie. Augustin Landier sera notre invité. Il est économiste, professeur à HEC, co-auteur avec David Tesmar du livre « Le prix de nos valeurs ». Le livre est publié chez Flammarion.
France Inter.
La question se pose au lendemain d'une journée de forte mobilisation des anti-pass et anti-vax. Les propos du chef de l'État, désireux d'emmerder, je cite, les non-vaccinés, ont-ils servi de piqûre de rappel aux opposants à l'injection? 105 200 personnes ont défilé hier partout en France, soit 4 fois plus qu'à la mi-décembre. Niveau proche des records, par exemple, à Valence, dans la Drôme. Lucie Loconi, les manifestants dénonçaient la transformation prochaine du pass sanitaire en pass vaccinal, mais aussi les paroles présidentielles.
Réponse immédiate des manifestants. La place de la Liberté de Valence est noire de monde. Michel se mobilise depuis l'instauration du pass sanitaire. Les propos du président ne l'étonnent guère.
Contrairement à ce qu'il avait dit au mois de décembre, qu'il voulait être consensuel et fraternel, ses propos sont d'une violence inouïe. Nous sommes des citoyens. Être citoyen français, c'est être né en France.
T'es plus qu'une merde maintenant, hein. T'as pas compris. Hein. Non, t'es plus qu'une merde maintenant.
À côté, cela ne fait pas rire Julie, mais elle garde le sourire, car c'est ainsi qu'elle souhaite répondre à Emmanuel Macron.
Le président est violent envers nous et moi j'ai pas envie de lui répondre comme ça. J'ai envie de lui montrer toute mon intelligence. Soit il prend les décisions, soit on n'est pas dans l'illégalité en fait. On a le droit de ne pas se faire vacciner.
Le pass vaccinal, Geneviève, aide-soignante à la retraite, n'en veut pas non plus, encore moins depuis la fameuse phrase du chef de l'État.
Il agit comme un souverain, mais le seul inconvénient, c'est que les souverains, c'est nous. Lui, il a été élu par le peuple, et c'est le peuple qui lui demande de faire ce qu'il faut qu'il fasse. Et là, c'est tout l'inverse.
Selon les opposants au pass, les propos d'Emmanuel Macron ne font que diviser les Français. Dans le cortège, pourtant, beaucoup semblent eux-mêmes divisés entre appel au calme ou à la violence.
Un reportage France Bleu Drôme Ardèche, violence parfois en effet, dans tout le pays, 10 policiers blessés hier, 34 personnes interpellées. Dans le Haut-Rhin, à Münster, 3 personnes ont agressé violemment l'employé d'un centre de vaccination hier soir. Enquête confiée à la gendarmerie de Colmar, le préfet et l'agence régionale de santé dénoncent un acte inacceptable. En Guadeloupe, c'est ce climat de tension qu'ont dénoncé la nuit dernière. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour dire stop à un climat de terreur contre le personnel hospitalier de l'île. Mardi, la police a dû exfiltrer le directeur de l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Des militants contre l'obligation vaccinale assiégeaient son bureau. L'épidémie de Covid et ses effets secondaires sur les enfants. Pagaille à l'école, presque tous les syndicats enseignants appellent d'ailleurs à la grève jeudi. Cas contact en cascade, test à répétition, quotidien désorganisé. Résultat, Faustine Calmel, certains bambins préfèrent passer leur journée à la maison plutôt qu'aller jouer dehors.
Au sortir du premier confinement avait émergé le syndrome de la cabane. Ne plus vouloir sortir de chez soi, cet endroit si rassurant. Plus d'un an et demi après, la maison reste pour certains jeunes un refuge, d'autant plus quand, comme l'explique la psychologue Caroline Bernard, l'école n'est plus un lieu de stabilité.
Parfois il y a eu des arrêts, il y a eu le confinement, il y a eu des reprises. Donc en effet c'est assez anxiogène là, tous ces changements de repères en permanence. Et c'est vrai que l'enfant qui vivait l'école comme un lieu de soutien, de lien social, il n'y a pas beaucoup de signaux pour lui permettre de s'épanouir lors de sorties culturelles. Ça peut générer beaucoup d'anxiété.
Mais si certains jeunes ne veulent plus quitter leur intérieur, il faut bien différencier les classes d'âge, estime la psychologue clinicienne Béatrice Cooper-Royer.
Chez les adolescents, franchement, c'est vraiment pas la majorité. Et je pense qu'ils sont plutôt
extrêmement heureux de reprendre une vie sociale normale. Chez les plus petits, en revanche, ça peut générer chez eux un peu d'anxiété. Et l'anxiété chez les plus petits, elle va assez rapidement provoquer une espèce de besoin d'être près des parents tout le temps.
La psychologue se veut malgré tout optimiste avec la très grande capacité d'adaptation des enfants, dont la majorité des plus jeunes, dit-elle, a totalement intégré la nouvelle donne sanitaire.
Nouvelle donne toujours marquée par la flambée épidémique. Le nombre de patients Covid en réanimation augmente encore à 3821 en tout. En une semaine, 10% de la population française est passée en pharmacie se faire tester. Faut-il continuer sur cette lancée ? Élément de réponse sur notre site franceinter.fr. Alors que les plateformes de traçage de la Sécu, elles, sont débordées. Témoignage dans le journal de 9h.
Et avant le journal des sports, dans 6 à 7 minutes, cette question ce matin. Le numéro 1 du tennis mondial a-t-il souffert du coronavirus à la mi-décembre ?
C'est en tout cas l'argument des avocats de Novak Djokovic et la thèse qu'ils défendront demain devant la justice australienne. D'après eux, le Serbe peut se passer de vaccin pour jouer à l'Open d'Australie dans 8 jours à cause de cette infection récente. En attendant une décision, le joueur de tennis restait hébergé dans un centre de détention pour migrants à Melbourne, soutenu par quelques militants et par tout son pays, la Serbie. Correspondance, Laurent Rouy.
Torture, honte, la presse tabloïde serbe n'a pas de mots assez durs pour décrire les conditions de la rétention de Novak Djokovic en Australie. Des médias ont aussi publié des photos des chambres décrépites de l'hôtel où est retenu le joueur et de la nourriture très peu appétissante qui y est servie. Alors que quelques centaines de supporters ont encore manifesté à Belgrade samedi, la première ministre Anna Brnabić s'est assurée auprès du gouvernement australien que Djokovic recevrait des équipements pour s'entraîner dans sa chambre. On le voit bien, rares sont les voix en Serbie qui critiquent Djokovic. Parmi elles, un politicien d'opposition lui a reproché de ne pas être vacciné, tandis que des détails sur la santé du joueur ont été publiés. Djokovic était porteur du Covid le 16 décembre et des journalistes ont montré que le lendemain, il participait sans masque à des cérémonies à Belgrade. Cette information a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux, insuffisante cependant pour égratigner la popularité de Djokovic. Belgrade, Laurent Rouy, France Inter.
Et tout le sport côté terrain, c'est à suivre vers 8h12 avec le journal des sports. À l'étranger, encore discussion sous tension à Genève. Moscou et Washington entament des pourparlers sur l'Ukraine alors que 100 000 soldats russes sont massés à la frontière. La Russie de Poutine exige des engagements, pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, pas d'armement occidental déployé dans le pays, sans quoi le Kremlin laisse planer la menace d'une offensive militaire. Mais Éric Biegala, vous êtes dans la capitale ukrainienne pour France Inter et cette perspective ne semble pas terrifier les habitants.
Difficile à Kiev de trouver quelqu'un qui se dise ouvertement effrayé par la concentration de troupes russes aux frontières. Boris, par exemple, ce sous-officier de la garde républicaine, rappelle que la guerre avec la Russie, c'est déjà une réalité dans le Donbass ukrainien.
Le soldat qui est sur le front depuis 2014, il ne redoute pas la guerre. Il est en guerre depuis tout ce temps-là. Quant aux civils ukrainiens, on leur dit qu'il y a des Russes sur la frontière et que la guerre pourrait bien commencer maintenant. Mais qu'est-ce qu'on a fait, à votre avis, pendant les 7 dernières années ?
Mais la perspective d'une reprise des combats à grande échelle avec une véritable opération d'invasion russe n'effraie pas davantage Boris, simplement parce qu'il n'en voit pas l'intérêt pour les Russes.
Je ne vois pas de logique à une invasion. Je me demande à quoi elle servirait. Pourquoi se charger d'un tel fardeau ? Mais donc ils occupent Kiev, par exemple. Ce territoire, il faudra le faire fonctionner économiquement, le remettre à niveau, trouver des fonds pour reconstruire. Il faudra beaucoup d'efforts pour instaurer un nouveau pouvoir sur ce territoire. À quoi ça servirait tout ça ? À quoi ?
Pour beaucoup, en effet, le déploiement russe n'est qu'une menace fantôme qui a surtout permis de forcer la main aux Occidentaux pour les amener à s'asseoir à une table de négociation. Kiev, Éric Biegala, France Inter.
L'Union européenne devra investir 500 milliards d'euros dans le nucléaire de nouvelle génération d'ici 2050. Ça, c'est l'avis du commissaire européen Thierry Breton dans le journal du dimanche aujourd'hui. La Commission européenne propose d'inclure le gaz et le nucléaire dans les énergies vertes pour orienter les capitaux vers ces sources d'énergie jugées durables.
Et toujours au chapitre économique, Marion, les salariés de l'usine Ferropem en Savoie veulent encore sauver leur usine.
Site de production de silicium à Laléchère qui emploie 221 personnes. Le site promis à la fermeture travaille pour les fonderies et le secteur automobile. C'est donc tout naturellement vers les conducteurs que se sont tournés les salariés. Opération péage gratuit hier pour faire connaître leur cause. Julie Munch était à la barrière.
Des tracts en français pour les locaux Bonjour, bonjour.
C'est pour le site de Châteaufeuillet, pour l'usine. Ouais. Ils vont fermer. Opération péage gratuite.
Et même en anglais pour les touristes. L'essentiel pour Jérôme, qui travaille depuis 10 ans dans l'usine, c'est de se faire voir et surtout entendre.
C'est symbolique, mais voilà, les gens sont assez sensibles. Ils nous écoutent et c'est important, quoi. On passe un message. Ouais, ouais.
Tristan a baissé la fenêtre de sa voiture.
Je travaille en usine, donc je les comprends tout à fait. Donc ouais, je les soutiens carrément. C'est bien de faire ça, merci beaucoup.
Ouais, merci de votre soutien. C'est cool.
Les sourires, les soutiens, ça fait déjà du bien à ces salariés qui se mobilisent depuis maintenant des mois. Mais cette opération péage gratuit qui fait plaisir aussi aux porte-monnaie des automobilistes a un autre but, explique Roger Rollands, il est délégué syndical pour Force Ouvrière.
Je pense que pour certains, il y a des élections qui vont avoir lieu. Et moi, j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de touristes qui comprennent notre action, bon, qui ne savent pas, comme vous dites, comment nous aider. Mais je pense que c'est dans les urnes des présidentielles que ça va pouvoir se jouer.
En attendant de mettre le bulletin dans l'urne, les automobilistes sont appelés à signer une pétition pour le maintien des emplois de l'usine Ferropem.
Un reportage France Bleu Pays de Savoie. Eux défendent le Made in France et la gourmandise. Dans les Landes, les patrons de la pâtisserie Filamande de Morsinx-la-Nouvelle ont glissé entre deux épaisseurs de pâte feuilletée des fèves aux couleurs des maillots de clubs sportifs de la ville. Tristan Barraud a dégusté pour nous.
En croquant dans cette galette, vous tomberez sur une fève à la forme d'un maillot bleu, orange, violet.
Là, on peut avoir tous les clubs.
Amandine Filamande, la pâtissière.
On peut avoir le foot, le rugby, le karaté, le judo, il y a la pelote, il y a le vélo, il y a à peu près tous les clubs. Hein.
Une idée trouvée un peu par hasard avec son mari l'année dernière, c'est la deuxième année qu'ils cachent ces fèves dans leur galette.
On prend les logos des clubs qu'on envoie après à la société de fèves Clamsic en Bourgogne, qui personnalise tout, qui travaille tout à la main, tout est fait français.
Faire des fèves particulières, ça marche au-delà de leurs espérances, ça attire des clients qui viennent de loin.
On a des collectionneurs qui appellent un petit peu partout pour qu'on leur envoie les collections de fèves. Puis après, ouais, on a des bons retour, les gens sont contents, les enfants sont contents parce qu'ils voient leur club en fève. Tout le monde est content en fait.
Et cette année, Amandine et son mari ont préparé une petite surprise.
On va glisser une fève mystérieuse. Donc la personne qui aura la fève mystère, hors collection des maillots, aura gagné une Nintendo Switch.
La pâtisserie Filamande va cacher cette année 1300 fèves dans ses galettes.
Reportage France Bleu Gascogne.
Et si vous avez l'intention d'abuser un peu de la frangipane, rassurez-vous, il restera le sport.
Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour Marion.
Oui, un peu de sport, ça fait pas de mal. D'abord, coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football aujourd'hui.
Et c'est une 33e édition qui se déroule au Cameroun. Ce n'est que la deuxième fois que les Camerounais organisent la Coupe d'Afrique des Nations. La première fois, c'était il y a 50 ans. Les Lions Indomptables qui font partie des favoris au même titre que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et l'Algérie tenantes du titre. Alors depuis une dizaine de jours, on n'a pas beaucoup entendu les joueurs du Cameroun s'exprimer. Très peu de contact avec l'extérieur, mais l'isolement a été rompu hier à la veille du match d'ouverture. Le capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar.
Cette compétition, elle est très attendue au Cameroun. Donc, je pense au niveau de l'ambiance, au niveau de tout ça, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Je pense qu'il faut que nous nous donnons les moyens d'entrer très très bien dans cette compétition. C'est la manière que nous jouons qui va permettre au peuple camerounais d'être davantage derrière nous.
Et le premier match pour les Camerounais, c'est cet après-midi à 17h contre le Burkina Faso.
En Ligue 1, un choc ce soir à Lyon.
Les Lyonnais qui accueillent le leader, le Paris Saint-Germain, l'OL qui n'est pas forcément au mieux cette saison, seulement 13e du classement. Et en face, ce soir, c'est donc le PSG. Alors Paris, certes, sans Neymar, Messi et Di Maria, mais avec Kylian Mbappé. Peter Bosch est l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.
Quand on parle de le PSG, il faut pas parler d'un joueur. Ils ont plusieurs bons joueurs et c'est vrai, lui, c'est un joueur avec les qualités exceptionnelles. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup plus de joueurs avec les qualités exceptionnelles. Sinon, tu joues pas à Paris Saint-Germain. Bien sûr, c'est un bon joueur, mais il faut pas focusser que à un joueur. C'est pas un joueur qui joue contre lui, c'est l'équipe qui joue contre lui et on va jouer comme une équipe contre le PSG.
Le coup d'envoi de ce Lyon-Paris-Saint-Germain, 20h45. Hier soir, Lens a fait une bonne opération dans le haut de tableau en battant le Stade Rennais, 1-0.
Et en rugby, c'est la 15e journée du top 14.
Avec des victoires hier pour Castres, Lyon, Perpignan, Bordeaux-Bègles et pour le Racing 92. Les Racingmen qui, après 4 défaites d'affilée, retrouvent enfin le chemin de la victoire face à Clermont, 33-28. Le soulagement du demi-mêlé Maxime Macheneau.
Pour moi, c'était pas un bon match, voilà. Mais c'était capital de remporter le match. Donc, on connaissait la situation et il fallait assumer, il fallait prendre des points. C'est voilà, c'est chose faite. On sait qu'il y a plus trop de jokers maintenant dans ce championnat qui est très resserré, où le moindre point compte. Et on a perdu déjà trop de matchs pour encore en laisser passer, surtout à domicile.
Notez que les deux matchs prévus aujourd'hui, Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier, ont été reportés. Et puis handball, les Bleus préparent l'Euro aujourd'hui avec un match amical contre l'Allemagne. C'est à 19h près de Francfort.
Et moi, amicalement, je vous le dis, c'est l'heure de faire un peu de gym, hein, tout en écoutant, bien sûr, Karine Bécart et Eric Delvaux sur
et
France Inter.
Et deux, et allez, un, on saute, et deux, hop, on saute. Hop. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Bleu Forêt. Le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et un grand merci à Marion Lourd pour le journal. Jean-Michel Golinski, des fortes pluies près des Pyrénées, un peu comme hier. Hein.
À chaque jour, sa perturbation, celle d'hier, touche ce matin les régions de l'Est avec de la neige, des Vosges aux Alpes. En journée, maintien d'un ciel pluvieux neigeux de Rhône-Alpes au Grand Est. À l'arrière, des averses sont déjà en place. Elles seront fréquentes en journée sur la Picardie, la région parisienne, le centre et le massif central, plus éparses sur le nord et le Pas-de-Calais. Notez que l'Elpe est en vigilance orange, inondation. Par l'océan, une nouvelle perturbation fait son entrée avec des pluies modérées de la Bretagne à la Gironde, des précipitations qui seront beaucoup plus intenses à partir de ce soir et jusqu'à demain après-midi entre la Garonne et les Pyrénées, avec beaucoup de neige en montagne à partir de 1300 mètres en journée, 2000 ce soir, donc attention au risque d'avalanche qui devient très fort. Et puis les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Haute-Garonne sont en vigilance orange, forte pluie, inondation. Le vent sera très turbulent dans le couloir pyrénéen et près de la Méditerranée. Il va chasser les nuages du golfe du Lion aux terres provençales.
Jean-Michel Golinski, Météo France.